Alors, je vous invite à suivre avec moi deux lectures dans le Nouveau Testament. La première sera dans l'Évangile de Jean au chapitre 4, versets 46 à 54. Jean, chapitre 4, versets 46 à 54. Je vous rappelle que nous lisons la parole inspirée de Dieu. Jésus retourna donc à Cana, en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Il y avait à Capernaum un officier royal dont le fils était malade. Il apprit que Jésus était venu de Judée en Galilée, alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils qui était près de mourir. Jésus lui dit, si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croirez donc point? L'officier royal lui dit, Seigneur, descends avant que mon petit enfant ne meure. Va, lui dit Jésus, ton fils vit. Cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite, et il s'en alla. Comme déjà il descendait, ses serviteurs le rencontrèrent et lui dirent que son enfant était en vie. Il s'informa auprès d'eux de l'heure à laquelle il s'était trouvé mieux, et ils lui dirent, hier, à la septième heure, la fièvre l'a quitté. Le père reconnut que c'était à l'heure même où Jésus lui avait dit, « Ton fils vit », et il crut, lui et toute sa maisonnée. Jésus fit encore ce second miracle après être venu de Judée en Galilée. Et puis le deuxième texte, dans l'Épître aux Hébreux, le chapitre 11, le fameux chapitre sur les héros de la foi de l'Ancien Testament, et nous allons lire les versets 1 à 3. Hébreux chapitre 11, les versets 1 à 3. Or la foi, c'est l'assurance des choses que l'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et c'est à cause d'elles que les anciens ont reçu un bon témoignage. C'est par la foi que nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce que l'on voit ne provient pas de ce qui est visible. Je vous invite à la prière. Éternel notre Dieu, le roi de l'univers, le créateur qui a créé tout à partir de rien sur une seule parole, le Dieu vivant, le Dieu qui transcende l'histoire, le Dieu de l'Ancien Testament, qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Dieu de la rédemption. Le Dieu et Père de Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur. Le Dieu qui a envoyé l'Esprit Saint. Père, Fils et Saint-Esprit, nous te rendons grâce et nous te demandons de nous éclairer par cette parole que tu nous as laissée, ta parole et la vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Au nom de Jésus, amen. Alors j'ai donné comme titre à cette prédication, crise de foi. On pourrait dire également, voir pour croire ou croire pour voir. Voir pour croire ou croire pour voir. Il y a quelques années, j'ai lu l'histoire de ce prédicateur chinois qui fut un jour confronté par un homme qui venait l'écouter régulièrement. Et cet homme lui aurait dit, « Pourquoi est-ce que tu prêches toujours la même chose? Ça fait 3 jours que tu prêches sur ce Jésus. » Le prédicateur lui répondit en lui posant une question. « Qu'est-ce que tu as mangé pour le petit déjeuner ?»« Ben, du riz. » « Et pour le dîner ?» Du riz. Qu'est-ce que tu as mangé hier? Ben, du riz. Qu'est-ce que tu manges depuis des années? Ben, du riz. Alors pourquoi manges-tu du riz tous les jours? Pourquoi ne manges-tu pas autre chose? Eh bien parce que c'est ce qui me garde en vie, fut la réponse. Et à l'évangéliste de répliquer, c'est également la raison pour laquelle nous prêchons Christ. Rien que Christ, et seulement Christ, il nous donne la vie, il est notre vie, et nous ne pouvons pas vivre sans lui. Il nous donne la vie, il est notre vie, et nous ne pouvons pas vivre sans lui. Vivre avec Jésus-Christ, vivre dans la présence de Jésus-Christ, vivre en communion avec Jésus-Christ change tout. Quand le Seigneur Jésus-Christ vient dans une région, quand il vient dans une maison, quand il vient dans l'église, quand il vient dans une vie, ça se voit, ça se sent et ça se sait. Et dans notre texte, Jésus est justement de retour dans une ville, la ville de Cana en Galilée, et Jésus rappelle que c'est à Cana qu'il a fait son premier miracle. Alors vous vous souvenez, vous connaissez sans doute tous l'histoire, c'était des noces. Un de ces moments les plus forts et les plus joyeux de cette vie. Pour ceux qui ont pu suivre à la télévision les noces d'un nouveau prince et d'une nouvelle princesse hier à Monaco, il n'y a pas si longtemps c'était en Angleterre, où que vous alliez, il y a ça en commun, les noces ont ça en commun, c'est la joie, c'est la fête, et les pratiques sont peut-être différentes, les façons de fêter sont peut-être différentes, mais il y a toujours une grande joie, beaucoup d'émotions. On fait la fête, on mange, on boit et on danse. Mais apparemment, il y avait beaucoup plus d'invités que prévu, et le vin vint à manquer. La fête allait se terminer comme un pétard mouillé. Jésus est alors intervenu, il a transformé l'eau en vin, un vin d'une telle qualité que cela a surpris même les connaisseurs. C'est la présence et l'intervention de Jésus qui change tout, qui peut assurer le succès de cette fête. Nous avons besoin de Jésus dans nos moments de fête et de joie. Il est la source de cette joie profonde. Alors Jésus est maintenant de retour dans cette ville. Et alors que Jésus arrive à Cana, la nouvelle de sa venue parvient aux oreilles d'un homme qui, lui, par contre, est en détresse. C'est un officier du roi, nous dit le texte, dont le fils était sur le point de mourir. Alors, il avait de toute évidence entendu parler du pouvoir de Jésus et il décida de partir sur le champ et faire 40 kilomètres. Pour aller à la rencontre de Jésus et lui demander de venir guérir son fils. Et Jésus va guérir son fils. Ce qui est curieux dans cette narration, c'est que Jean parle de cette guérison comme le deuxième miracle de Jésus, alors que nous savons que Jésus avait fait à Jérusalem de nombreux autres miracles depuis celui des noces de Cana. Pourquoi parle-t-il alors du deuxième miracle de Jésus? Un exégète suggère que c'est parce qu'il y a un lien entre ces deux miracles, et je crois qu'il a raison. Regardons les similarités entre les deux narrations. Les deux miracles ont lieu un troisième jour. Dans les deux cas, Jésus doit initialement faire un reproche aux personnes qui demandent le miracle. Dans les deux cas, Jésus fait le miracle à distance en prononçant une simple parole. Dans les deux cas, seuls les serviteurs sont au courant du miracle. Dans les deux cas, les témoins de ce miracle croient en Jésus. Mais, avec ces similarités, il y a une très grande différence. Dans le premier cas, c'est la fête, c'est la joie et c'est le bonheur. Dans le deuxième cas, c'est la maladie, le désespoir, l'anxiété et la terrible réalité de l'omniprésence de la mort. Ces deux réalités de la vie sont également les nôtres cet après-midi. Dans une même journée, un pasteur peut avoir à célébrer un culte de mariage et un culte d'enterrement. Ne serait-ce que hier, dans le Val-Romais, nous étions d'un village à un autre, et de ce village à un autre, nous avons vu ce qui ressemblait à un mariage, une grande fête, et en même temps, nous avons parlé, conversé avec quelqu'un qu'on venait de rencontrer, qui vient d'avoir qu'il a un cancer très très grave. Deux réalités de la vie en l'espace de quelques heures. Avec les uns, il y aura une joie extrême. Avec les autres, il y aura une tristesse extrême. Dans les deux cas, le message de Jésus aura un point commun. Jésus est la réponse pour tous les besoins de l'être humain. Jésus est suffisant pour tous les besoins de l'être humain. Quelqu'un a écrit, je cite, Jésus a une place dans toutes les circonstances de notre vie. Si nous l'invitons dans nos moments de bonheur, il fera augmenter notre joie. Si nous l'invitons dans nos moments de malheur et de détresse ou d'anxiété, il apportera consolation, réconfort et une joie qui n'est pas de ce monde. Jésus est suffisant. La différence sera donc une question de foi, une question de confiance. Je suis sûr que vous avez déjà entendu quelqu'un vous dire, ah, si seulement je pouvais avoir votre foi. Si seulement je pouvais avoir votre foi. Revenons à cet homme qui vient voir Jésus. Nous savons qu'il était un officier du roi, sans doute de la cour du roi Hérode. De toute évidence, il était riche, car il avait des serviteurs, et de par son titre, il avait sans doute de l'influence. L'argent donne de la puissance. Le pouvoir donne de la puissance. Mais l'un comme l'autre sont très éphémères. Ce puissant, ce riche, ne peut échapper à la réalité du commun des mortels, la maladie, la mort. Et devant cette réalité-là, on se retrouve tous au même niveau. Or, il a entendu dire que ce Jésus, ce fils de charpentier, faisait des miracles hors de l'ordinaire, extraordinaires, des guérisons incroyables, du jamais vu. Et il est seulement à 4 heures de chez lui. Alors il part sur le champ. Il trouve Jésus et il supplie Jésus de venir chez lui guérir son fils avant qu'il ne soit trop tard. Alors vous pensez peut-être que cet homme a une grande foi, après tout. Ne s'est-il pas déplacé pour venir jusqu'à Jésus, lui demander de l'aide? Mais à y regarder de près, et surtout à cause des paroles de Jésus qui doit le reprendre devant tout le monde, il s'avère que la foi de cet homme était plutôt petite. Je trouve que cette foi ressemble beaucoup à celle de nos contemporains. Et Jésus lui dit ce qu'il nous dirait aujourd'hui au verset 48. Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croirez point. À moins que vous voyiez des choses extraordinaires, vous ne croirez point. Et à chaque époque, comme aujourd'hui, des hommes cherchent des miracles, cherchent des prodiges, des œuvres à sensation pour soutenir ou provoquer la foi. Selon les paroles de Jésus, ce n'est pas cela qui va produire la foi. C'est pourquoi il dit, si vous ne voyez des prodiges et des miracles, vous ne croirez point. Selon la science de l'aérodynamisme, saviez-vous qu'un bourdon ne devrait pas voler? Son corps, et vous le voyez, il est gros, hein, le bourdon, son corps est disproportionné par rapport aux ailes qu'il possède. Et en fonction de sa largeur et de son poids, théoriquement, il ne devrait pas pouvoir voler. Mais il vole. Et avec les lois de l'aérodynamisme qui s'appliquent pourtant à toute la création, eh bien les scientifiques ne peuvent toujours pas expliquer le phénomène du bourdon. Et c'est vrai qu'en règle générale, derrière chacune des lois de la vie sur cette terre, théoriquement, les difficultés doivent produire de l'impatience. Les tragédies doivent produire de la tristesse ou de la colère. La mort doit produire le désespoir ou la dépression. Mais il y a dans toute l'histoire un groupe d'hommes qui, comme le bourdon, semblent contredire les lois de la nature humaine. Ils volent avec les ailes de la foi et ils défient les lois de l'impatience, de la colère, de la tristesse et du désespoir. S'il n'y avait pas les témoignages de ces chrétiens, depuis longtemps, le monde aurait balayé ce qui reste des vestiges du christianisme et la foi chrétienne ne serait même pas l'objet d'une investigation possible. Mais le bourdon continue à voler et le scientifique continue à l'observer curieusement. Et les chrétiens continuent à voler avec les ailes de la foi et le monde continue à les observer curieusement. Quel est le vrai test de la foi? Et c'est pourquoi nous avons lu ce texte d'Hébreux 11 qui nous donne la réponse, Hébreux 11. Or, la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une démonstration, et on essaie de se rendre à l'évidence d'une donnée objective, c'est ça une démonstration. Sauf que là, on ne le voit pas, selon le texte d'Hébreux. Et l'auteur cite les nombreux cas de l'Ancien Testament qui montrent cette fameuse foi mise en application. Pour ne prendre qu'un exemple, verset 3, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Alors aujourd'hui, pour prouver que Dieu est le créateur de l'univers, certains chrétiens pensent qu'il faut absolument réconcilier la science avec le récit de la création. De cette façon, notre message sera plus crédible, dit-on. Mais si on y réfléchit bien, qu'est-ce que nous essayons de faire? Convaincre les gens de l'existence de Dieu par la science? Les convaincre que Dieu a eu besoin de millions d'années pour créer cet univers parce que selon nos calculs de datation, cet univers doit être vieux de plusieurs millions d'années? En faisant cela, nous faisons exactement ce que cet officier du roi faisait. Nous limitons Dieu dans le temps et dans l'espace. Alors certes, cet officier du roi croyait que Jésus pouvait guérir son fils, mais il croyait que ce pouvoir de guérisseur était limité par l'espace et par le temps. Il ne voyait pas vraiment Dieu devant lui, car s'il avait vu Dieu en voyant Jésus-Christ, il n'aurait même pas posé la question de son pouvoir infini. Pour cet homme, il était absolument nécessaire que Jésus aille jusque chez lui pour pouvoir toucher et guérir son enfant, parce que pour lui, ce n'est pas possible autrement. S'il doit y avoir guérison, ça doit se faire de cette façon, par le toucher. Vous voyez le problème? C'est un problème de foi. Mais qui sommes-nous pour dicter à Dieu comment il doit opérer? Qui sommes-nous pour ramener, réduire et limiter Dieu à notre compréhension des choses? Et mes amis, si cela s'applique aux théories de la création, ça touche tous les domaines de notre vie. À chaque fois que nous questionnons Dieu, nous le ramenons à la portée de notre entendement. Nous pouvons connaître Dieu, mais nous ne pourrons jamais comprendre Dieu, et ça, il faut absolument l'accepter. Nous pouvons connaître Dieu, mais nous ne pourrons jamais comprendre Dieu. Et Jésus donc reprend sévèrement cet homme. Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croirez point. En d'autres mots, ma parole n'est-elle pas suffisante? Mais la petite foi de cet homme contient les deux ingrédients essentiels à une foi qui est quand même vivante, même si elle est petite. Et ces deux ingrédients essentiels sont l'humilité et une confiance totale à la parole de Dieu. Par sa réponse à Jésus, il montre qu'il s'humilie devant lui. Il ne se défend pas, il n'essaie pas de se justifier, Il ne veut même pas argumenter avec Jésus. Il aurait très bien pu dire, Jésus, comment peux-tu me parler si durement? Tu ne vois pas ma douleur? Tu ne vois pas que je suis en pleine recherche spirituelle? Tu ne vois pas tout ce chemin que j'ai fait pour venir te voir? Et tu me reprends, tu me fais honte devant tout le monde? Il aurait pu dire tout cela. Mais dans sa réponse, cet homme montre qu'il n'est pas centré sur lui-même. Malgré son statut social, il se moque de ce que les gens peuvent bien penser de lui. Son fils a besoin de Jésus tout de suite, sans intervention divine, c'est fini. Cet homme est brisé. Et il s'est humilié devant Jésus. Alors il n'a pas encore une très grande foi, mais assez de foi pour dire à nouveau ce qu'il croit être le seul moyen possible de guérison pour son fils. Seigneur, descends avant que mon fils ne meure. Un peu comme pour dire, oui, tu as raison. C'est vrai que les gens viennent vers toi pour voir des signes et des miracles, pour pouvoir croire. Mais moi, tout ce que je veux, c'est que tu guérisses mon fils. Il est brisé. Il a besoin de Jésus et il s'humilie. Et je vous rappelle que le contraire de l'humilité, c'est l'orgueil. Vous vous souvenez peut-être de Naaman, cet homme également riche et puissant, qui fut lui aussi, qui était un officier, et qui fut frappé de la lèpre, et à qui le prophète de Dieu demanda d'aller se plonger 7 fois dans les eaux boueuses du Jourdain. Il avait la lèpre, un genre de cancer incurable, et on le voit s'irriter d'une telle demande, sur le point de refuser la solution de Dieu, parce que c'est humiliant. Et nous lisons cela, et nous pensons que ce type est fou, qu'il a perdu la raison, il a perdu toute perspective, son problème. Ça s'appelle l'orgueil. L'orgueil aveugle, et l'orgueil est un ennemi de la foi. Et vous et moi ne réalisons pas à quel point c'est notre orgueil qui bloque l'action de vie de Dieu dans nos vies. Et l'Écriture le dit d'ailleurs, Dieu résiste aux orgueilleux. Elle ne dit pas, Dieu n'aime pas les orgueilleux. Elle dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Et Naaman devra finalement s'humilier pour être guéri. Mais le deuxième test de la foi de cet homme qui vient voir Jésus, non seulement avec une confiance totale en Jésus, il met donc sa confiance dans la parole de Jésus. Il ne lui dicte plus comment il veut qu'il agisse dans la vie de son fils. Mes amis, le test de la foi, c'est d'avoir assez de confiance en Jésus pour le laisser agir comme il l'entend, même si ce n'est pas toujours ce que nous voulons ou comment nous voudrions qu'il agisse. Le test de la foi, c'est de pouvoir dire, après avoir soumis notre requête à Dieu, non pas ma volonté, mais ta volonté, Seigneur. Car le vrai test de la foi, c'est de reconnaître que Jésus est suffisant, qu'il me donne ou qu'il me refuse ce que je lui demande. Mon bonheur ne dépendra pas ainsi des circonstances de ma vie, mais il dépendra de la présence de Jésus avec moi, dans la tristesse comme dans la joie, dans le succès comme dans l'échec. Jésus est suffisant. La réponse de Jésus est verset 50. « Va, lui dit Jésus, ton fils vit. » Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite, et il s'en alla. Alors combien de personnes m'ont dit, moi je crois ce que je vois. Vous n'avez jamais entendu ça? Moi je crois ce que je vois. Eh bien l'évangile dit exactement le contraire. Il faut d'abord croire pour voir. La foi, c'est ce que Hébreux 11 dit, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Les gens voulaient voir des signes et des miracles pour croire, et Jésus leur dit, dans le domaine spirituel, c'est le contraire. Ton fils vit et tu ne peux pas le voir. Cet homme a cru à la parole de Jésus. Sans un signe, il a cru. Ça veut dire que la parole de Jésus, ça veut dire que la parole de tout ce qui est dans l'Écriture est suffisant pour pouvoir continuer son chemin et partir en paix. Alors une telle paix que le texte semble nous montrer qu'il ne s'est même pas pressé pour rentrer. La paix qui surpasse toute compréhension est le bonus qui accompagne une foi en Jésus-Christ. Et dans le cas de cet homme, une foi grandissante. Cet homme n'est pas pressé de rentrer chez lui. Imaginez cela. Son fils était mourant et il est à 4 heures de chez lui et Jésus lui déclare qu'il est guéri. Et le père prend tout son temps pour rentrer à la maison. Et je vous rappelle que les téléphones portables n'existaient pas à ce moment-là. Comment savons-nous qu'il est rentré tranquillement? Bien d'abord, on sait qu'il est parti tout de suite, car le verbe grec et son emploi de l'imparfait indiquent qu'il s'est immédiatement mis en route. On sait également que cette conversation avec Jésus s'est déroulée vers 1 heure de l'après-midi, vers 13 heures. On le sait par le verset 52. Lorsque les serviteurs de cet officier du roi sont venus à la rencontre de leur maître pour lui annoncer la grande nouvelle et qu'il leur a demandé à quelle heure son fils fut guéri, ils répondirent, verset 52, « Hier, à la 7e heure, donc 13 heures, la fièvre l'a quitté. » Et le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit « Ton fils vit. » Or, pour un voyage de 4 heures, en partant à 13 heures, il aurait fallu le temps de rentrer à la maison et arriver vers 17 heures, mais le texte nous dit qu'il est rentré seulement le lendemain. Cet homme, qui avait commencé avec une foi si faible, ressort de cette tragédie avec une foi extraordinaire. Il était tellement convaincu que la parole de Jésus était suffisante qu'il a pris tout son temps pour rentrer. Alors là, je ne peux que spéculer, mais je peux imaginer que ce père, qui venait de retrouver d'une certaine façon son fils perdu, condamné par la maladie, prend peut-être pour la première fois le temps de s'arrêter et d'admirer la création, qui est comme un tableau signé de la main d'un Dieu infiniment grand, le Dieu dont il vient de faire la connaissance. Ou peut-être de s'arrêter et d'acheter des cadeaux pour son fils. Ou encore de s'arrêter et de raconter à tous les passants ce que Dieu a fait. Nous ne savons pas ce qui lui a pris tant de temps pour rentrer à la maison, mais une chose est certaine, il est dans la paix. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour vous et moi cet après-midi? Bien d'abord, un rappel que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, et il sera le même demain. Et s'il était la réponse à l'anxiété de cet homme, il est la réponse à votre et à mes anxiétés. Qu'est-ce que cet homme a fait? Il est d'abord venu voir Jésus. Alors ce serait la première question avec laquelle je voudrais vous laisser ce soir. Est-ce que vous êtes venu voir Jésus-Christ vous-même? Ensuite, il est venu parler à Jésus. Est-ce que vous le connaissez au point où vous pouvez même, vous aussi, lui parler? Il a cru en la parole de Jésus. Croyez-vous dans la parole, dans les paroles de Jésus et de l'Évangile? Croyez-vous que ce qu'il promet, lorsqu'il dit par exemple « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi », est-ce que vous le croyez vraiment? Quand il a dit « Je suis le bon berger prend soin de ses brebis », est-ce que vous le croyez réellement? Il a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos ». Est-ce que vous le croyez vraiment? Le croyez-vous même si vous ne le voyez pas avec vos yeux? Certains d'entre vous êtes passés ou vous passez par le feu de l'épreuve. Vous ne voyez pas le sens à cette épreuve, et peut-être que vous ne la comprendrez qu'après cette vie. Dans la mort d'un être cher qui est parti soudainement, nous expérimentons la tristesse et le deuil. Jésus nous invite à venir à lui et nous l'entendons nous dire « Je sais ce que je fais. Je ne fais pas une seule erreur. Fais-moi confiance, je suis bon. » Nous ne pouvons pas toujours comprendre le ou les desseins de Dieu, mais comme cet homme qui avait reçu la promesse de Jésus pouvait repartir tranquillement et en paix. De même, nous pouvons parcourir notre pèlerinage ici-bas en paix, sachant que Dieu fait concourir toutes choses pour notre bien, même si on ne le voit pas, car la foi, c'est non seulement croire d'abord ce que nous ne voyons pas, mais c'est aussi croire que Dieu accomplit sa volonté, même si ce n'est pas tout à fait ce que nous avions espéré ou imaginé. Je vous rappelle que le fameux moine Luther, converti, a été complètement bouleversé par cette parole de l'Écriture. Le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi et seulement par la foi. Alors ce missionnaire chinois avait répondu, nous prêchons Jésus-Christ et seulement Jésus-Christ parce qu'il nous donne la vie, parce qu'il est notre vie et parce que nous ne pouvons pas vivre sans lui. Une seule clé est nécessaire, la foi en Jésus-Christ. Je vous invite à la prière. Éternel notre Dieu, nous voulons te rendre grâce, car à travers toute l'histoire, tu as choisi et mis à part, tu t'es révélé à des hommes, à des femmes, à des enfants. Ils n'avaient pas besoin d'une faculté de théologie ou d'un diplôme quelconque pour croire. Ils n'avaient pas besoin de preuves. Ils n'avaient pas besoin de voir des signes et des miracles extraordinaires. Simplement, ils ont cru en ta parole. Et Seigneur, ta parole est vraie. Et c'est elle qui nous sauve, nous annonçant l'œuvre de Jésus-Christ. Cette parole est là pour nous rappeler qui tu es, que tu es le même Dieu qui ne change pas, hier et aujourd'hui. Tu es le même Dieu, tu seras le même demain. Le Dieu qui prend soin de son troupeau, le Dieu de l'Alliance, le Dieu qui revient bientôt. Donne-nous, Seigneur, d'être reconnus comme des hommes, des femmes et les enfants parmi nous, caractérisés par la foi, une foi profonde, peut-être simple, mais profonde et qui grandit. Et nous pouvons te rendre grâce pour cette foi parce que c'est ton cadeau. Et nous te glorifions pour cela en Jésus-Christ, notre Maître. Amen.